Soyez les bienvenus. C'est l'heure de retrouver Alain Jeanne pour votre émission Chut, on écoute la télé, le talk show radio en podcast maintenant sur onécoutelatélé.com.
Chut, on écoute la télé avec Langélis, votre maître artisan glacier. En Nouvelle-Aquitaine, des glaces sans ajout d'arôme, sans colorant, sans conservateur. Découvrez les premiers cônes glaciers artisanaux français dans vos rayons en grande surface. Pour votre santé, évitez de manger trop gras, trop salé, trop sucré.
Et retrouvez vos boutiques Langélis à Nantes, Paris, Bordeaux, Royan, La Rochelle et La Cotinière.
Succombez au plaisir d'un dessert Marie Morin avec Chut, on écoute la télé. Marie Morin, une entreprise familiale, un goût inimitable. Retrouvez vos recettes sans colorant, sans conservateur et vos points de vente sur mariemorin.fr.
Retrouvez toute l'actualité de votre émission en vous connectant sur notre site onécoutelatélé.com ou sur notre page Facebook Chut, on écoute la télé.
Bonjour à tous et très bon début de semaine. Ravi de vous retrouver sur notre site onécoutelatélé.com pour Chut, on écoute la télé, le podcast. Tous les lundis à 20h, eh bien, nous vous donnons rendez-vous justement pour ce podcast avec tous nos invités où pendant une heure, nous allons vous accompagner pour passer en revue l'actualité culturelle de la semaine avec tous nos invités. Alors, vous savez pas? Eh bien, on va faire tout de suite le sommaire. Eh bien, oui, c'est parti.
Chut, on écoute la télé.
Le talk show radio.
Et au sommaire donc de cette troisième émission de la rentrée de Chut, on écoute la télé, eh bien on aura le grand plaisir de consacrer une large partie de cette émission au Festival de la Fiction Télé de La Rochelle qui se tiendra donc dès demain du côté du Vieux-Port de La Rochelle avec Stéphane Strano, son directeur, et la présidente du jury, Sandrine Bonner, qui seront avec nous en fin d'émission. Spécial Les Mystères de la Duchesse également avec la productrice Sylvette Friedman, la réalisatrice Emmanuelle Duberger et les asserviers Patrick Rénal, Jérémy Manster, ils seront tous là pour nous parler du téléfilm événement diffusé samedi soir sur France 3. C'est notre coup de cœur ciné cette semaine, Le Tigre et le Président. Il est sorti au cinéma mercredi dernier. Le réalisateur Jean-Marc Perfit et Jacques Gamblin sont nos invités exceptionnels aujourd'hui pour en parler. Liam Batty, il incarne Jonathan Daval dans Le Mystère Daval ce soir sur TF1. Liam sera également notre invité exceptionnel. Demain soir, on va parler du téléfilm d'M6, J'irai au bout de tes rêves, avec Stéphanie Pilonka, la réalisatrice, et Samuel Alain, Habitbol. Vous l'avez compris, on a du pain sur la planche, on va démarrer tout de suite avec notre coup de cœur ciné.
Le coup de cœur ciné de la semaine.
Allez, notre coup de cœur cinéma cette semaine va s'intéresser à la sortie du film Le Tigre et le Président, un film de Jean-Marc Perfit qui est avec nous aujourd'hui, notre invité. Bonjour cher Jean-Marc.
Bonjour.
Merci d'être avec nous. Alors, il va devenir un sociétaire de l'émission cette année parce que, eh ben, Jacques Gamblin, on est tellement heureux de l'avoir, eh bien, qu'il revient. Et oui, il revient encore cette année. Après, on sourit pour la photo. Eh ben, ce coup-ci, le voilà dans le rôle de Paul Deschanel, un président oublié de la République pour la mémoire collective. Et on va réparer ça de suite, mon cher Jacques. Comment ça va?
Je suis ravi. Je suis ravi de sortir Paul Deschanel de sa tombe.
Exactement, non mais c'est ça qui est incroyable. Alors moi ce que j'ai aimé dans votre film avant tout Jean-Marc, c'est que pour une fois on va traiter d'un biopic, d'un film historique sur le ton de la comédie. Et ça, ça fait du bien parce que ça permet justement eh bien, de l'approcher sur un ton plus léger, même si tout ce qui arrive dedans est vraiment arrivé réel hein, finalement.
Oui, tout à fait. On a pris quelques libertés quand même avec la réalité historique. Mais ce qui était important, c'était justement de faire passer ces idées avec un ton de légèreté. C'est un personnage tel que Jacques l'a interprété, qui était tellement élégant, tellement libre, tellement en avance sur son temps qu'on ne pouvait pas faire un film historique un peu poussiéreux. Il a fallu un peu essayer de ruer dans les brancards et de faire un petit peu comme Deschanel, d'essayer de faire quelque chose de très moderne.
Alors Paul Deschanel est un président qui a gouverné la France pendant 6 mois. En 1920, donc ça s'est oublié, ça restera simplement le président qui a disparu en sautant d'un train, en quelque sorte, hein, c'est un peu ça.
Oui, c'est tout à fait ça. La plupart des gens l'ont complètement oublié et ceux qui connaissent quelque chose sur lui ne connaissent que cette anecdote un peu ridicule, comme quoi il était tombé d'un train et il était resté 3 jours chez les gardes barrières alors que toute la France cherchait son président. Et voilà, on s'est dit que c'était un bon moyen pour essayer de trouver, en plus de ses idées avant-gardistes, en plus de sa langue dans ses discours, on s'est dit que c'était un bon moyen pour essayer de faire du cinéma, de raconter, de faire de la comédie, de faire rire les gens en leur apprenant des choses, enfin essayer. Voilà, modestement.
Il a pas fait son bel mondo, hein, parce que vous dites il a sauté du train.
Cascade a été mesurée.
Il semblerait qu'il ait chuté du train. On ne sait pas très bien comment, puisque l'histoire est assez divergente là-dessus, semble-t-il. Quoi. Est-ce qu'il est tombé de la fenêtre, par la porte, par le trou des toilettes, j'en sais rien. Mais, bref, voilà, on ne sait pas très bien ce qui s'est passé. Lui seul le sait, mais il est trop tard pour lui demander.
Alors, Paul Deschanel, est-ce que c'est une figure politique que vous connaissiez avant? Vous étiez documenté? Comment vous êtes approprié le rôle, Jacques?
Non, je ne connaissais rien de Paul Deschanel, sauf le nom, finalement. Même pas qu'il avait chuté de ce train. Et j'ai tout appris grâce à Jean-Marc Perfit, ici présent, par le scénario et par la façon dont il m'a nourri pour préparer le personnage. Parce qu'il y a pas beaucoup de choses, quoi. J'ai demandé des vidéos. Il y a une ou deux vidéos qui sont arrivées chez moi, mais voilà, il y a peu de choses. Jean-Marc, il a dû être l'archéologue dans tous les sous-sols de la Bibliothèque nationale pour aller chercher, pour aller lire 6000 pages de discours, pour aller extirper les dialogues du film et les propositions des Chanel à l'époque. C'est quelqu'un qui n'apparaît pas, même sur Internet, quand vous allez faire des recherches et tout ça. C'est vraiment un oublié. On l'a effacé. Alors, évidemment, ça laisse peu de documents pour se nourrir, et en même temps ça laisse aussi une grande liberté pour imaginer et pour créer le personnage. Bon, on a des images quand même, hein, on sait qu'il était comme ci, comme ça, mais on s'en est rapproché, on va dire, d'un point de vue physique, mais c'est pas le plus important. On suggère le personnage, et puis aussi le fait qu'il était malade et qu'il a fallu évidemment composer ces moments où il se désaxe un peu, où il part un peu en vrille, où il s'endort un peu n'importe où, où il n'arrive pas, enfin ses obsessions, etc., etc. Évidemment, le film est pétri aussi de ces moments-là cocasses où le type est un peu à l'ouest, tout en faisant des propositions extraordinairement visionnaires sur la société. Et c'est ça que le film nous fait découvrir. C'est le personnage, il est fait de ça, quoi. Une extraordinaire oralité, une intelligence incroyable, un vrai désir de changer la société, et puis en même temps cette maladie qui le ronge.
Alors c'est ça qui est assez dingue. On apprend par exemple que Paul Deschanel, ça a été un des premiers à vouloir lancer le droit de vote des femmes, par exemple, qui a mis derrière, on sait, des décennies à arriver finalement.
25 ans, le vote des femmes, hein, c'est De Gaulle, c'est 44-45. L'abolition de la peine de mort, cette proposition, pareil, c'est 81. Puis ainsi, comme ça, je sais pas combien de propositions qu'il a faites à ce moment-là et qui ont paru à tout le monde complètement
utopique à l'époque,
utopique, révolutionnaire, et qui ont permis aux autres politiques de le ridiculiser, en fait, parce que quand des gens ont des idées si belles peu réaliste, alors on a vite fait
décalé par rapport à l'époque, on peut dire.
Décalé par rapport à l'époque, on a vite fait de leur donner un petit coup de pied au cul et pour les mettre dans le caniveau. Et c'est ce que le film, justement, c'est à ces attaques-là que le film répond aussi.
Alors c'est Clémenceau, à l'époque, qui est Premier ministre, qui est appelé le Tigre, lui. Et donc il y a les élections présidentielles qui arrivent en 1920. Donc Clémenceau est donné grand favori, évidemment. Et puis arrive l'outsider, Paul Deschanel, qui, contre toute attente, emporte l'adhésion à l'époque du Conseil. Parce qu'en fait, le président n'était pas élu par le peuple à l'époque, mais par un gouvernement, finalement.
Il était élu, oui, au suffrage indirect, c'était la troisième République, c'est-à-dire que les députés et les sénateurs se réunissaient au Congrès de Versailles, qui est un grand hémicycle, un peu comme l'Assemblée nationale, sauf qu'il y a 890 places. Là, entre eux, ils élisaient le président de la République. C'était aussi une manière de parler de cet entre-soi de la politique politicienne de la Troisième République, où il y avait une grande versatilité parce qu'il suffisait d'un bon discours pour emporter l'adhésion, et du coup, tout pouvait basculer très très facilement, et c'est là où Deschanel l'a emporté, parce que c'est la répartie, c'est le bon mot,
la force des propositions.
Pendant 6 mois, Clémenceau n'aura que de cesse, de toute façon, de lui mettre des bâtons dans les roues. L'histoire le raconte dans le film, mais c'est réel, ça, pour le coup. Il y a eu des témoignages dans ce sens où Clémenceau n'a pas arrêté de lui mettre des bâtons dans les roues à l'époque.
Ben oui, c'est-à-dire que Clémenceau, il était très proche des médias et de beaucoup, beaucoup de journaux. Donc déjà, il a beaucoup contribué au ridicule de Deschanel en l'affublant de beaucoup de caricatures et en essayant de détruire un petit peu son image auprès des Français. Et ça, c'est vraiment quelque chose que Clémenceau a fait. Après, le film a fait quelques petites incartades, des petits pas de côté avec la réalité historique, parce que voilà, c'est une comédie, comme vous l'avez dit. Donc on a pris quelques libertés, on s'est amusé de voir cette rivalité entre ces deux hommes, et on a fait un peu truculer la réalité historique.
Un peu accentué, voilà, on va dire ça comme ça. En tout cas, voilà, n'hésitez pas à aller voir ce film qui sort au cinéma. Il a été tourné en combien de temps ?
25 jours.
Ah ouais, 5 semaines quoi.
5 semaines et...
Une espèce de challenge.
Oui, parce qu'il y a du costume, il y a des décors incroyables.
Des décors, on va dire, naturels, qui sont les ors de la République, qui sont le Quai d'Orsay, le Jardin de l'Élysée, le Congrès de Versailles, l'hémicycle à Versailles, des lieux qui sont prestigieux et qu'il n'y avait pas à construire. Une course contre la montre, mais le film n'en pâtit pas, et c'est chapeau.
C'était facile d'obtenir l'autorisation, justement, de pouvoir tourner à l'Élysée, à l'hémicycle, de pouvoir où il a fallu trouver des astuces pour tourner ailleurs et reproduire ça, quoi, finalement.
Écoutez, on a eu une chance incroyable sur la totalité de la réalisation du film, c'est que à chaque fois qu'on demandait quelque chose, on l'obtenait. Donc on essayait de, bien sûr, on n'a pas tourné à l'intérieur de l'Élysée parce que tellement de choses sont classées secret défense ou quoi que ce soit. Puis de toute façon, tout le mobilier a été refait. Donc on a pris le parti. Le Quai d'Orsay nous ouvrait ses portes. On a fait tous les intérieurs au Quai d'Orsay. Même les intérieurs de la maison close sont des salles de bain du Quai d'Orsay.
Et après, l'anecdote de la salle de bain du Quai d'Orsay.
La salle de bain où vous verrez dans le film André Dussolier en Clémenceau, dans cette baignoire magnifique Art déco, c'est la salle de bain du roi, Winston Churchill, tout en or. Winston Churchill est resté coincé dans la baignoire, a dû demander de l'aide aux deux pauvres gardiens qui gardaient la porte, et ils étaient bien embêtés d'aller le décoincer. Donc c'est la petite anecdote.
Bon, en tout cas, c'est un chouette film. Allez voir, vous apprendrez plein de choses. J'espère qu'il sera projeté peut-être dans des écoles, des lycées, des collèges, en tout cas. Voilà, c'est un président oublié qui va permettre de renaître un peu des mémoires et de remettre un peu les choses et l'histoire. Voilà.
Avec beaucoup d'humour aussi. Ça, c'est la facture du film. Ouais.
Exactement. Le Trigger, le président, c'est au cinéma. Voici tout de suite la bande-annonce. Merci Jacques, merci Jean-Marc d'avoir été avec nous. Et puis, on vous souhaite tout plein de spectateurs. En tout cas, on est derrière vous. À bientôt.
Merci beaucoup.
Merci.
Georges Clémenceau, candidat à la présidence de la République.
Monsieur Deschanel, vous avez devant vous le futur président de la République.
Vous avez entendu quelqu'un, Milan?
Monsieur Clémenceau,
vous avez gagné la guerre.
Laissez-nous gagner la paix.
Monsieur Deschanel, je suis comme la guerre.
C'est vrai. Vous êtes fini.
Monsieur le Président,
je me moquerais bien d'avoir été président si je ne change pas la vie des Français. Je guiderai le gouvernement vers des mesures importantes.
Et aujourd'hui, le ravi de la crèche veut faire un grand discours pour annoncer toutes ses idées d'enfant de 6 ans.
Il paraît que vous aimeriez que mesdames votent.
À quoi bon dépouiller le double de bulletins pour obtenir le même résultat?
Une abolition de la peine de mort, c'est bien joli, mais acceptée dans quel cas?
Aucun cas.
Ah, les idées sont grenues, j'en ai eu, hein.
Tellement absorbé par l'écriture de son grand discours, il en oublie totalement ce qu'il fait.
Ah! Bonsoir, monsieur.
Bonsoir.
Paul Deschanel, président de la République.
Étienne Radeau, reine d'Angleterre.
Disparu.
Volatilisé.
Avec lui, il faut s'attendre à tout.
Vous êtes beau joueur.
Pourquoi?
Parce que j'ai perdu l'élection.
Votre discours.
Le pays retient son souffle.
J'y travaille.
C'est pas tous les jours facile de changer la France.
Bouge pas. Chut, on écoute la télé, revient dans un instant. A tout de suite. Retrouvez toute l'actualité de votre émission en vous connectant sur notre site onécoutelatélé.com ou sur notre page Facebook Chut, on écoute la télé.
Tu sais, si je pars, je me souviendrai de tout. Dans la nuit, les phares que tu posais sur mes joues. À l'amour comme à la vie comme à la guerre. Je sais, j'avais promis, mais moi tout ça, j'ai pas fait. C'est quoi le problème? Je suis plus moi-même, pourquoi tu changes de chaîne? PS, je t'aime. C'est quoi le problème? Je suis plus moi-même, pourquoi tu changes de chaîne? PS, je t'aime. C'est quoi le problème? Ce que je sais, pourquoi c'est pas idem? PS, je t'aime. 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 Se dit des vérités dont on n'est pas
le rendez-vous des stars. C'est Chut, on écoute la télé, votre talk show radio. Chut, on écoute la télé, le talk show radio. Nos coups de cœur télé cette semaine.
Allez, notre coup de cœur télé ce soir est consacré à TF1 avec le Mystère d'Aval, le film événement qui va être diffusé avec notre ami Liam Batty qui est notre invité. Bonjour Liam.
Bonjour Alain, bonjour.
Quel bonheur de te retrouver Liam dans ce rôle assez incroyable, complexe, quand tu as su que tu allais interpréter Jonathan d'Aval. Comment tu as réagi ?
Comment j'ai réagi ? J'ai réagi déjà, j'étais très étonné qu'on m'ait la chance de pouvoir passer un casting pareil. Et puis après, je me suis dit surtout qu'il allait falloir beaucoup travailler. Parce que il fallait faire un travail d'approche pour, si on voulait justement bien retranscrire le personnage ou bien le faire.
Bien sûr.
Bien incarné, allons-y, qu'il allait avoir un travail assez fou en très peu de temps. Donc, très étonné. Puis après, surtout très pressé de travailler et d'aller au plus loin pour faire le mieux possible.
Alors, évidemment, quand c'est une histoire vraie, et on veut souvent ne pas trahir les protagonistes, comment tu t'es préparé? T'as regardé des reportages, t'as regardé des archives sur cette histoire d'Aval qui est en plus très récente. Donc, c'est encore dans la mémoire collective de tout le monde, hein.
Bah, il faut savoir que déjà, cette fiction, elle est basée sur l'enquête de gendarmerie, sur le livre qui a été écrit par Christophe Dubois et Laurent Brio, l'affaire Alexia Laval, la vraie histoire. Donc, déjà, tous ces gens en amont avaient fait un travail de fourmi, un travail méticuleux qui nous a permis d'avoir chaque détail, chaque réaction, chaque élément important, la compréhension de cette affaire, plus de détails qu'on aurait pu avoir uniquement avec les archives qu'on avait, mais également au début, il a fallu se fournir des archives que tous les Français ont pu voir quand ils ont suivi cette affaire, et donc, essayer de décortiquer tout ce qui a été reportage, toutes les images qui nous ont été fournies ou qu'on pouvait avoir par rapport à Internet. Ça a été très compliqué, j'avoue, dans un premier temps, parce que Jonathan d'Aval n'apparaît que deux fois sur les archives. Une fois où il prend la parole, trois fois exactement, et deux fois il ne la prend pas. Et la seule fois où il prend la parole, il est très ému. Donc il a fallu quand même travailler et avoir un juste milieu sur le peu d'archives qu'il y avait réellement de lui. Et partir de là, c'est-à-dire de tous les détails de cette enquête, les détails de ce livre et les détails des archives qu'on avait pu avoir.
Alors, on apprend plein de choses en regardant ce film, et évidemment, on apprend, on sait tout ce qu'il a avoué plusieurs mois plus tard, la découverte macabre du corps d'Alexia, mais surtout, on apprend que mine de rien, la police était quand même sur ses traces depuis plusieurs semaines, et leur intime conviction était quand même la culpabilité de Jonathan. Hein.
La police était, je vais pas parler à leur place, j'ai eu la chance de rencontrer les vrais enquêteurs, et ils m'ont expliqué leur process. C'est ça qui a aussi été très intéressant, de pouvoir travailler justement avec ces échanges-là. Ils avaient une intime conviction très rapidement. Ils avaient une intime conviction, mais il faut savoir que dans une enquête, avoir une conviction, ça ne suffit pas.
Mais oui.
Il faut avoir des preuves. Et donc, ils ont dû réfréner leur intime conviction, parce qu'on ne peut pas accuser à tort sans preuve sur une enquête. Et donc, jouer, mais pas réellement jouer, on va dire, plutôt faire une investigation, une vraie investigation, et laisser traîner l'investigation pour avoir les vraies preuves qui leur les permettront de ne pas faire erreur. Parce que si jamais ils décident de faire immédiatement sur une conviction, ça c'est très technique, une garde à vue, ils ont droit à 48 ou 72 heures. Par contre, s'ils n'ont pas de preuves à cette garde à vue, ils n'auront plus le droit à ces 48 ou 72 heures derrière. Donc, ils étaient obligés de réunir toutes les preuves possibles et imaginables pour pouvoir être sûrs de faire la garde à vue au bon moment et d'avoir les bons éléments au bon moment.
Ouais, c'est ça qui est assez dingue. Enfin, on apprend en tout cas effectivement beaucoup de choses. Alors, tu partages l'affiche avec quelqu'un qui t'était pas inconnu, puisqu'Alexia est jouée par Maud Baker. Même si vous avez partagé, je crois, très peu de scènes dans Demain nous appartient, en tout cas, voilà, c'est un grand plaisir de vous voir tous les deux à l'écran aussi.
Bah, ça a été un plaisir pour moi, et l'anecdote, si on la pousse un peu plus loin, c'est qu'on n'a jamais eu de scène ensemble sur Demain nous appartient.
Mais c'est bien ce qui me semblait.
On s'est croisés beaucoup. Voilà, c'est anecdotique de pouvoir se retrouver parce qu'on se connaissait très bien quand même avec Maud, mais. On s'est retrouvés, on a pu enfin jouer ensemble et sur un autre projet. Et puis Maud, en plus, c'était une aide incroyable. Enfin, de toute façon, en général, Maud est incroyable et a une énergie incroyable et elle soutient beaucoup sur tous les projets. Comme Michel Bernier qui a été aussi incroyable.
Ouais, j'ai remangé, il y a un casting de fou autour de toi.
Qui a échangé, tous. On en a une chance. Et Christophe Lamotte a été très, très sobre et très fort. On a été magnifiquement dirigé. Mais oui, ça m'a fait plaisir de retrouver Maud. Ça nous a fait rire et on s'est retrouvés sur quelque chose de différent. Mais qu'on a réussi à mener ensemble, ça s'est plutôt bien passé.
T'as le souvenir d'une scène un peu plus compliquée pour toi, qui a été un peu plus difficile peut-être à jouer?
C'est très intéressant comme question. C'est la première fois qu'on la pose.
C'est vrai?
Je veux dire. Ouais, c'est vrai. C'est la première fois qu'on la pose.
Ouais, parce que quand on joue un personnage comme ça, c'est toujours la question que je me pose. Je me dis, est-ce que voilà, à un moment donné, tu sais, tu t'imprègnes peut-être de la personnalité en préparant, en, voilà. Et puis, bah, à un moment donné, tu peux avoir des scènes, toi, en tant qu'homme, tu vois, qui peuvent être plus difficiles, quoi, tu vois.
Voilà, je vais pas te mentir, c'est la reconstitution.
Ouais, c'est terrible.
La reconstitution dans la maison et dans la forêt. Il faut savoir que la reconstitution dans la maison peut passer très vite à l'écran. Elle est déjà très dure humainement hein, à regarder. Et c'est un choc, c'est quelque chose qui est très dur à faire déjà, donc à regarder, à faire. Mais sauf que même si elle passe très rapidement, la première partie de la reconstitution qui est dans la maison, on l'a tournée pendant 4h30, 5h. Donc c'est-à-dire que pendant 4h30, 5h, devoir être dans cet état-là, et puis de conclure en plus en traînant un corps qui sort d'un berlingot, tu vois ce que je veux dire. C'est vraiment, au moins ça aide à imprégner bien sûr, mais c'est très dur psychologiquement de tenir autant de temps et d'essayer d'être machinalement de le faire, mais tout en ressentant les choses qui étaient pu ressentir. Non, ça a été les deux scènes les plus dures, les deux scènes de reconstitution. Pas les plus dures, non, celles qui m'ont le plus marqué.
Oui, pour toi les plus humainement peut-être difficiles à vivre.
Exactement.
Liam, après une affaire française qui était consacrée à l'affaire Grégory, Christophe Lamotte nous propose bien le mystère d'Aval qui sera donc diffusé ce soir sur TF1. On va évoquer tes projets juste avant de se quitter. Alors, Rémi pourrait-il repasser le bout de son nez un jour dans Demain nous appartient? C'est tout ce que les fans demandent en tout cas.
Ça, c'est une question par contre qu'on m'a déjà posée.
Peut-être, j'imagine, parce que Soraya, elle est toute seule quand même là.
Bah oui, hein, elle doit être triste. Peut-être, il n'y a pas eu de départ définitif.
C'est pour ça, tout espoir est permis.
Il y a eu une cavale et il y a surtout eu, après cette cavale, des projets comme on peut le voir aujourd'hui qui ont été faits pendant ce temps-là et d'autres projets qui sont en train de se faire. Donc, c'est une hypothèse, c'est à soulever, mais en tout cas, rien n'est acté.
Bon, eh ben écoute.
Aujourd'hui, rien n'est définitif.
En tout cas, tu le sais, t'es le bienvenu quand tu souhaites dans Chute on écoute la télé pour en parler. Voilà, Liam.
Bah, merci beaucoup, en tout cas, pour m'accueillir à chaque fois.
Merci à toi. Et puis, on va se quitter avec tout de suite la bande annonce. Le mystère d'Aval, c'est ce soir à 21h10 sur TF1. À bientôt.
À bientôt.
Votre femme est une joggeuse et ce matin, elle est partie courir seule.
Elle est toujours pas rentrée.
Vous pensez que votre femme a disparu?
Oui.
Alexia d'Aval, disparue depuis ce matin à 8h.
Vous la retrouvez? C'est ma petite fille.
On va tout faire pour vous la ramener, madame Pouillou.
Ici!
Cet après-midi, nous avons découvert un corps sans vie. Tout porte à croire qu'il s'agit d'Alexia.
Cette affaire est devenue médiatique au possible.
Oh, mais dis-moi, vous allez retrouver celui qui a fait ça.
Je vous le promets. Une trace de votre véhicule a été trouvée à proximité du corps d'Alexia. Vous en pensez quoi?
J'ai pas l'explication.
Pour vous, c'est l'affaire d'Aval. Pour nous, c'est l'assassinat de notre fille.
C'est désormais notre suspect principal.
Qu'est-ce qui s'est passé cette nuit-là?
Inédit. Le mystère d'Aval. Bientôt sur TF1. Ce programme est d'ores et déjà disponible sur Salto.
Allez, notre coup de cœur télé consacré à J'irai au bout de tes rêves. C'est donc la fiction événement d'M6 qu'on va découvrir cette semaine. J'ai eu la chance de l'avoir en avant-première au Festival de Fiction Télé de La Rochelle avec Stéphanie Pilonka, qui est notre invitée aujourd'hui pour en parler, la réalisatrice. Bonjour Stéphanie.
Bonjour, merci de nous accueillir tous les deux. On est heureux avec Samuel Alain Bitbol.
Qui est notre invité également. Bonjour Samuel. Bonjour. Tu vas devenir un sociétaire de notre émission maintenant.
Oui, beaucoup, oui. Et franchement, je veux dire un truc aussi. Merci beaucoup de nous inviter aussi avec ma petite Stéphanie Pilonka.
Ah, il y a une grande alchimie qui est entre vous. C'est ce que je t'ai dit, Stéphanie, pour le coup, quand on s'est vu à La Rochelle. C'est vraiment un film qui transpire la sincérité. On voit vraiment que voilà, les comédiens entre eux sont vraiment attachés les uns aux autres. Il y a rien de fake en fait, et on ressent bien cette patte un peu du documentaire, mais là vraiment tournée vers la fiction, et une fiction très réussie.
Écoutez, merci beaucoup. Non, ça a été une joie, une chance de pouvoir tourner avec Samuel, Guillaume de Tonquédec, Christiane Areali, Camille Lou, évidemment, Walidia et tous les autres. Et ça a été une chance surtout que, enfin, je suis très honorée que Samuel m'ait offert sa confiance. Et c'était une joie de le diriger pour son premier grand rôle. Premier rôle, hein, c'est ça? Ouais. Il y a beaucoup, une belle alchimie, évidemment, parce que Samuel, il est sans phare, il est sans mascarade, il est cash, il donne tout. Et c'est tellement rare, les gens qui donnent tout maintenant. Il fait pas semblant.
C'est vrai, oui. Je fais pas semblant, c'est ce qui est vrai. C'est vrai que dès que j'ai du travail à faire, c'est, je vais de l'avant, quoi. C'est toujours, travailler encore plus loin et toujours, travailler pour nous, quoi.
Il y a longtemps que t'as envie de devenir comédien, Samuel?
Oui, depuis tout jeune. Depuis tout bébé, ouais.
Qu'est-ce qui t'a donné envie, justement?
C'est un combat pour moi de faire, ces films-là, parce que c'est quand même, c'est depuis, ça m'a donné plus de joie, plus que du bonheur, quoi, de faire ces films, quoi, de faire plus de films avec Stéphanie Pienka, surtout.
Alors, grand public, t'as évidemment découvert dans le rôle de Rémi, dans Plus belle la vie. Et depuis, on sent vraiment une réelle affection du public, justement, à chaque fois qu'il te retrouve dans un rôle. On t'a vu dans Meurtre en pays Qatar et là, dans ce téléfilm de Stéphanie. Stéphanie, on parle de l'histoire en quelques mots déjà, pour commencer. On plante le décor ensemble.
Alors, c'est l'histoire d'un jeune homme qui travaille dans un CDI, dans un petit village, une petite ville de province. Voilà, il s'appelle Antoine et il va croiser le chemin d'une jeune femme qui s'appelle Bianca. Et l'un et l'autre vont se sauver. En fait, cet Antoine-là, avec tout son amour, sa sincérité, sa pétillance et sa spontanéité, va quelque part sauver une fille qui ne trouvait plus son chemin, qui ne trouvait pas son chemin et qui avait besoin d'être éclairée dans sa vie. Et c'est le rôle, voilà, qu'incarne Samuel. C'est une histoire plus forte qu'une histoire d'amour. Une amitié particulière, une amitié pas comme les autres, qui va tout emporter sur son passage, c'est ça ?
C'est ça, oui. C'est un sauveur, même.
Voilà. Camilo, ta rencontre avec ? Parce qu'on a l'impression que vous vous quittez plus maintenant.
Non, plus du tout, parce que c'est vraiment beaucoup d'amour, beaucoup d'amitié surtout. Franchement, Camille et moi, on se donne beaucoup de confiance, quoi. Vraiment. Et pour moi, c'est comme une tour de cœur, pour moi.
Il y a des très belles scènes entre Camille et toi et entre Guillaume, qui joue ton père, Guillaume de Tonquédec, qui là aussi est d'une sincérité complètement dingue dans le rôle de ton papa. T'as été incroyablement ému, je crois, très souvent par les scènes que tu as pu t'offrir avec Guillaume aussi.
Oui, aussi, ouais.
C'est le meilleur papa du monde, en fait.
C'est, ça, c'est sûr, ouais. C'est vraiment le meilleur petit papa du monde, ouais.
Ben voilà, ça c'est dit. Il y a des scènes qui t'ont bouleversé, toi, quand tu les as tournées, Stéphanie ? Ou est-ce que quand on est réalisateur, ce qui se passe des fois devant la caméra dépasse des fois tout ce qu'on peut attendre ? Et là, franchement, je pense que t'as dû certainement être surprise au-delà.
Ben moi, derrière la caméra, moi j'ai pleuré tout le temps, quoi. Tout le temps, parce que Samuel, c'est de l'émotion brute. C'est un diamant, c'est de l'émotion à l'état pur, il donne tout. On peut pas rester insensible, on peut pas rester dans sa fonction, hein, même si on doit se fliquer, se blinder parce qu'il y a un film à rendre, des séquences à rentrer. Mais non, il y a eu beaucoup, beaucoup de larmes derrière. Vraiment. Et ça, c'était fabuleux, très, très beau. Il m'a chaviré. Ça a été un exemple de vie et très souvent, je pense à lui, à ce qu'il a pu me donner, moi, en tant que technicienne, moi, en tant que femme, moi, en tant que maman. C'est quelqu'un qui vous apprend beaucoup de la vie.
Et ce qu'il dit, Stéphanie, ce qui est vrai, c'est que certes c'est une maman, mais il faut aussi traiter aussi comme une princesse aussi.
Il paraît que tu pleures sur commande.
Oui, c'est vrai. Oui.
Et il paraît que quand elle te dit donne tout, t'es capable de pleurer mais sur commande.
Oui, c'est ça, sur commande.
Moi j'étais heureux pour toi, Samuel, parce que il y a un point commun entre Antoine et Rémi que t'as incarné en Plus belle la vie, c'est que t'as retrouvé une grande comédienne, Annie Grégorio, oui, qu'on adore tous, et j'imagine que les retrouvailles avec Annie ont dû être joyeuses.
Ah beaucoup, ouais. Je m'aime beaucoup être magnifique, on va dire, avec Annie Grégory et moi, parce que c'est vrai que on est toujours aussi une plus confiance, c'est une réalité aussi.
Samuel, c'était une évidence pour toi, de toute façon, Stéphanie, même si tu disais que t'as feinté un peu en essayant de dire, allez, je vais regarder un peu ce qu'il peut y avoir à droite, à gauche comme comédien capable d'incarner Antoine, mais de toute façon, c'était Samuel pour toi, dès la base.
Moi, Samuel, je l'ai rencontré à Luchon, où vous étiez d'ailleurs présent. Il était sur scène avec moi lorsque j'avais reçu le prix du coup de cœur du jury pour Apprendre à t'aimer. Et j'avais pris l'avion avec lui, j'avais voyagé avec lui, et je lui ai dit sur scène à Luchon, il y a des images, hein, où je lui dis, je vais t'écrire un rôle. Il y a des images de ça, tu te rappelles ?
Et moi, je m'en souviens, j'y étais.
Je viens très bien, ouais.
Ça, je vais t'écrire un rôle, et puis voilà, yalla, le rôle est là. Yalla. Et on l'a tourné. Voilà, alors il faut saluer bien entendu l'engagement de M6 et de mes producteurs d'aller au-delà de tout ça et de pouvoir nous donner la chance de faire des films sur la différence.
Ouais, c'est ça, c'est vraiment une prise de risque et à la fois oser et montrer autre chose, voilà, parce que on a un film d'une grande douceur, d'une grande sincérité qui va s'offrir à vous cette semaine sur M6. Comment vous vous sentez là tous les deux là quelques jours de la diffusion où le grand public va pouvoir enfin le découvrir après tout le travail qui a été fait ? Samuel.
Alors moi déjà avec beaucoup d'émotions déjà, et surtout c'est vrai que Stéphanie c'est une plus grande réalisatrice au monde, c'est vrai que ça me touche vraiment, quoi.
Stéphanie.
Maman, c'est beaucoup d'émotions de le livrer au public, mais je suis très excitée, j'ai peur bien entendu, j'ai le trac, Mais j'ai confiance. Parce que je me dis, voilà, peu importe ce que va vivre le film, comme le dit si bien Samuel, si ça peut changer le regard de certains, on aura gagné. Et je crois qu'au-delà de la performance, au-delà de l'audimat, c'est un film citoyen qui délivre un message humble, hein, mais un message qui peut-être est un message politique, un message citoyen, où on veut faire comprendre des choses aux gens, que la différence, en fait, c'est pas une entrave, c'est pas une difficulté, c'est juste un enrichissement pour progresser et essayer de s'enrichir encore davantage et de devenir des meilleures personnes, d'ouvrir notre cœur avec voilà plus de bienveillance et de générosité. Donc non, je suis excitée, mais j'ai confiance. Je sais que ce film trouvera son public et voilà, le public en fera bon usage, j'espère. Et nous, on veut juste partager, voilà, partager une émotion, un témoignage et une jolie histoire qu'on s'est racontée, qui nous a fait du bien.
Si tu devais réendosser le rôle d'Antoine pour une suite, ouais, est-ce que toi t'es partant? Parce que nous, on aimerait bien justement voir comment Antoine et Mayan dans la vie vont évoluer aussi.
Oui, alors moi, je serais vraiment partant, oui, mais même beaucoup.
T'attendrais que ça.
C'est un cadeau pour moi.
Stéphanie ?
Ce serait une bonne idée. Ils vont devenir quoi, Antoine et Mayan ?
On a envie de le savoir. En tout cas, vous aurez envie aussi de le savoir, chers auditeurs, quand vous allez voir le film cette semaine. Ça, c'est une certitude.
Merci pour ton accueil. Merci pour tes mots.
Et puis, j'irai au bout de tes rêves. C'est donc cette semaine sur M6. On ne le rate pas. Et puis, on vous souhaite évidemment plein de bonnes choses. Puis, d'aussi belles audiences que pour apprendre à t'aimer, que si vous ne l'avez pas vu, vous l'avez encore disponible sur Salto, par exemple. Donc, n'hésitez pas à aller vous jeter sur ce très beau film avec Harry Habitant. Et Julie Debonin également. Merci à beaucoup, Stéphanie. Merci, Samuel.
Merci beaucoup de ton accueil.
Merci et puis bon film, hein, j'ai envie de vous dire.
Vas-y, ramasse. Non,
tu veux pas.
Comment ça, tu veux pas?
Vas-y, ramasse.
Si, vas-y.
Allez, vas-y. Qu'est-ce qu'on connaît à toi?
Comment ça,
tu vas là-bas.
Vas-y, cassez-vous.
Comment ça,
on monte.
Cassez-vous. Allez, toi, tu vas là-bas.
Dégagez là. Vous dégagez. Vous avez rien d'autre à foutre. Vous dégagez. Tu dégages. Dégage, et ça, je le garde, tu vois.
Non, mais c'est pas.
C'est bon, j'ai la preuve sur ce téléphone, moi, tout va bien.
Dégage.
Ça va, Antoine? Tu veux que j'appelle Madame Roux?
Non.
Quelqu'un de ta famille?
Non, surtout pas.
Regarde, écoute-moi. Moi, quand j'angoisse comme ça, je respire, je prends mon souffle, je bloque et je souffle.
Allez, notre coup de cœur télé cette semaine est consacré au mystère de la Duchesse. C'est un nouvel opus qui nous attend, toujours produit par Sylvette Friedman, c'est le 7e, tourné dans notre belle région dans les Charentes. Et on a toute une partie de l'équipe qui est avec nous aujourd'hui pour en parler. On va commencer par la productrice fidèle de notre émission, Sylvette Friedman, bonjour.
Bonjour.
Merci d'être avec nous, Sylvette. Alors, elle n'est pas toute seule, hein. Sylvette, elle est venue en force. Elle nous a amené la réalisatrice Emmanuelle Duberger, qu'on connaît très bien aussi. Bonjour Emmanuelle.
Bonjour.
Merci d'être avec nous. Et puis, trois des comédiens sont avec nous. Alors, on a Elisa Servier qui est avec nous. Bonjour, Elisa.
Bonjour, bonjour.
Que beaucoup, beaucoup de monde va être content de voir à la télé. Non, mais depuis le temps, on se dit, mais Elisa Servier, mais franchement. Et alors, Patrick Reynal, évidemment, qui est avec nous aussi. Bonjour, Patrick.
Mais bonjour à vous.
Merci d'être là. Et puis, alors, le beau gosse, il a été pris pour ce film. J'ai été quasiment le premier à savoir qu'il allait tourner ça, c'était au Festival de Luchon, je me rappelle, l'année dernière. Il m'a dit, écoute, je démarre le prochain Mystère. J'ai dit, Mystère, ça me parle ça. Jérémy Baster qui est avec nous, bonjour Jérémy.
Salut Alain.
Merci d'être là, tous les cinq. On va planter un petit peu le décor de ce nouvel opus. Donc ce coup-ci, en Charente, hein, au lieu de la Charente-Maritime. Mais on reste chez le voisin, on s'en va pas très très loin quand même, Sylvette.
Non, on est en Nouvelle-Aquitaine, en effet, on est en Charente, et un endroit que je connais très bien aussi, que j'apprécie beaucoup pour les paysages. Et puis on a retrouvé aussi plein de techniciens avec lesquels on a eu l'habitude de travailler sur les précédents.
Donc, on avait tourné quelques scènes des Mystères des Majorettes d'ailleurs en Charente, hein, je crois.
Oui, en effet. Pas longtemps, on avait tourné 3 jours en Charente, mais on avait effectivement fait un très beau décor dans les vignobles de Charente. Voilà.
Je me souviens de ça. Alors Emmanuel, à la réalisation, alors moi j'ai une petite anecdote avec Emmanuel, c'est que la première fois qu'on a été sur les plateaux de Plus belle la vie, on a été reçu, mais comme jamais quasiment sur un plateau, par Emmanuel, qui nous a tout montré. Elle nous a montré comment elle faisait tac 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 avec toutes ses caméras et tout, mais incroyable. Elle va à une vitesse, au niveau, elle prémonte, elle réalise en même temps. Enfin, elle est incroyable cette fille.
Merci, mais je te prends comme agent Alain, c'est pas possible.
Écoute, moi j'ai adoré cette expérience parce que c'est vrai que sur une quotidienne, on voit le rythme effréné. Et là, bah évidemment, là je t'ai vu sur les Mystères de la Duchesse, j'ai eu l'occasion d'aller sur le tournage. Alors là, le rythme est quand même déjà un petit peu plus lent, t'as plus le temps quand même malgré tout. Mais faut que ça y aille quand même, hein.
Oui, il faut de toute façon imprimer du rythme, histoire que même dans la en cours de la journée de tournage, on s'endorme pas et que il faut entraîner tout le monde avec soi. Moi, je trouve que c'est un des rôles essentiels du réalisateur. Donc, il faut entraîner à la fois l'équipe technique qui sache où on va, comment on y va, et puis entraîner toute la belle troupe de comédiens que j'avais avec moi.
Ah oui, une belle troupe de comédiens, ça c'est clair. Alors on va planter un petit peu le décor. On va retrouver Lucien qui est détective, qui a quitté la police. On découvrira pourquoi dans le film, vous le verrez. Et puis accompagné avec Laurie qui joue Laure Pester, puisque quand elle est comédienne c'est Laure Pester. Et on a l'occasion de retrouver ce duo qui va mener l'enquête sur le crime en fait d'un mari d'une duchesse avec une grande différence d'âge entre les deux. Alors est-ce que ça aura un rapport ou pas? C'est ce qu'on verra tout au long de cette enquête. Mais qu'est-ce qui t'a plu en premier, Jérémy? Dans le rôle de Lucien, notamment.
Alors, dans le rôle de Lucien, comme vous l'avez vu en avant-première, c'est un personnage qui est très éloigné de ce que je peux faire d'habitude, déjà, dans lequel on n'a pas l'habitude de me voir. C'est-à-dire avec de l'humour, sur la réserve, un peu timide, mal à l'aise, qui a quelque chose en profondeur à régler. Donc, il y a différentes strates dans ce personnage qui m'ont beaucoup plu de le construire tel quel. Avec Sylvette et Emmanuel, on a pas mal discuté d'en faire un espèce de dandy anglais avec des gants gantés. On sait pas de quel siècle il pourrait débarquer. Et je trouve ça très chouette parce que ça lui donne un côté très atemporel. Et puis moi, ça m'a permis de me plonger dans ce costume en essayant des choses nouvelles. Voilà. Et c'est vrai qu'on est comédien pour ça. On est comédien pour pouvoir changer de prénom, changer de costume et essayer d'incarner un personnage de manière différente. Et ce téléfilm m'a permis vraiment de développer, de construire une nouvelle couleur de comédien. Et ça, c'était très agréable.
Alors moi, ce que j'ai trouvé génial, c'est que j'ai eu l'occasion de le voir à peine fini de monter au milieu dans un festival de cinéma au Cap d'Agde, notamment au Héros du cinéma, au milieu de films de cinéma. On voit plus la différence quand on voit des images pareilles sur grand écran. Mais qu'est-ce que ça doit être le bonheur pour vous de pouvoir découvrir cette fiction sur des écrans pareils? Je pense à Patrick et Lisa qu'on va parler encore.
Oui, c'est très inattendu parce qu'on n'a pas l'habitude de le voir, bien que les gens achètent maintenant des très très grands écrans. Mais c'est vrai que c'est très surprenant. Mais là, ça s'y prête bien parce que c'est il y a des très jolis plans et c'est vrai que là, on se dit c'est dommage que certaines personnes le voient sur des télés un peu petites, quoi. Mais c'est très agréable, c'est très très agréable, surtout quand l'image est belle, quand c'est bien filmé, c'est très agréable, c'est clair.
En tout cas, on voit plus la différence. Là, au niveau qualité, ça c'est sûr.
Ce qui est très frappant aussi, c'est la réaction du public qu'on reçoit directement et que devant la télévision, on ne peut pas imaginer. Donc ça, c'est très agréable aussi, vraiment.
Alors Patrick, vous jouez le maire du village.
Oui, je peux rien raconter. Vous m'excuserez.
A-t-il un lien avec la duchesse ou pas? C'est ce qu'on découvrira évidemment. Mais il est bien mystérieux.
J'allais dire, il faut garder le mystère. En tout cas, c'était formidable parce que moi, j'ai beaucoup tourné dans la région d'Angoulême et ça m'a
SOS 18.
SOS 18 pendant 5 saisons, 5 ans, ouais. Et donc, voilà, c'est une ville que j'aime beaucoup et puis un plaisir inouï de travailler avec Emmanuel, qui a une délicatesse de direction d'acteur qui est formidable et qui fait que ce téléfilm sort de l'habitude, quoi, parce qu'on voit aussi des êtres vivants, émouvants, tous ont des brisures, des secrets, des mystères et c'est fait avec beaucoup, beaucoup de délicatesse. Et je l'en remercie.
Elisa, qui joue l'épouse du maire, du coup.
Absolument, et je suis d'accord avec Patrick. Tous les personnages ont des fêlures. Il n'y en a pas un qui n'a pas de fêlure. C'est ça qui est très touchant, très joli, très humain.
Oui, c'est ça que j'ai bien aimé. C'est vraiment chaque personnage a sa place. On y retrouve des comédiens comme Nicolas Van Bereven, qu'on n'avait pas vu depuis un petit moment, qu'on retrouve aussi dans cette fiction. Voilà, il y a plein de beaux mondes. Et puis Ludmila Michael, qui est assez incroyable dans le rôle de la duchesse. Quel bonheur de voir Ludmila aussi.
Oui, Ludmila, on s'était rencontrés sur une grosse série magnifique, mais ça remonte à il y a 15 ans. Donc, on ne s'est pas revu depuis 15 ans et c'était un vrai, vrai bonheur. Quand on a cherché notre duchesse, on l'a pas cherché. On a tout de suite évoqué avec Emmanuel le nom de Ludmila et ça s'est imposé de soi. Donc on a eu le bonheur qu'elle accepte immédiatement et avec aussi beaucoup de bonheur. Et vraiment, c'était une marque de confiance de sa part d'accepter de faire ce rôle.
On va écouter un petit extrait et on va revenir dans un instant. On va revenir, t'as une séquence un peu compliquée, Jérémy, on va y revenir dans quelques instants, parce que je crois que dans ce film, tu prends cher à un moment donné, mais on va y revenir, à tout de suite.
Et puis on a une nouvelle enquête, un meurtre au manoir.
Il était marié depuis un an à la Duchesse, Louise de Crémier, 70 ans et propriétaire du manoir.
Lucien Labégari, agent privé de recherche et de renseignement.
Capitaine Arthuis, Cyril Le Goff, ça vous dit quelque chose ?
Ouais, c'est le connard qui a épousé la vieille, ouais.
C'est à lui qu'appartiennent les serres à l'entrée de la ville. Vous ne pouvez pas les manquer.
Sa disparition ne m'affecte pas, si c'est là votre question.
L'arrivée de ce type ne présageait rien de bon.
Longtemps, je me suis dit que je payais ma frivolité.
Je suis désolée, mon amour.
Ça va, ne t'inquiète pas. Et puis, lorsque j'ai rencontré Cyril, j'ai osé conjurer le malheur avec ce mariage.
Dans ma vie, j'ai jamais dénoncé personne. C'est pas aujourd'hui que j'ai commencé.
Allez, de retour, les mystères de la Duchesse, c'est samedi sur France 3. Alors, il y a une séquence que vous ne pourrez rater, évidemment, parce que s'il est sur la réserve, Lucien, à un moment donné, il va prendre cher, on vous dit pas par qui, ni comment, mais on va s'attaquer à ses bijoux de famille, en gros.
Obrigado. En portugais, ça veut dire merci. Et vous comprendrez. Alors évidemment, cette scène est très drôle et comme on le disait, là, on vient de le dire ensemble, elle sera sûrement dans la bande-annonce et j'en suis ravi. Et je parlais tout à l'heure de la comédie qu'on peut aussi retrouver en plus de l'émotion et comme le disaient Patrick et Elisa sur la fragilité de tous les personnages qui sont incarnés dans le téléfilm. C'est vrai que l'émotion est aussi très présente et la comédie aussi. Et c'est vrai qu'on a pu s'amuser. Et puis on nous a Emmanuel la première nous a encouragé, nous a laissé proposer des choses dans cette complicité et de pouvoir justement aussi mettre des petits moments de respiration qui étaient un peu plus légers. Et ça c'était super à faire. Voilà, on s'est régalé.
Alors Sylviette est une fidèle avec tous les gens avec qui elle travaille. Comme dans tous ses films, il y a une musique qui est dingue. La musique de David Imbeaux, tu lui fais faire une création pour chaque film, Sylvette, une création différente. Et franchement, la musique nous embarque littéralement dans l'histoire. Et ça, c'est vraiment beau parce qu'il est rare qu'on mette un budget sur la musique. Évidemment, parce qu'on sait, hein, les budgets serrés sur notamment les fictions de télévision. Mais toi, t'as jamais tergiversé là-dessus.
Non, je tergiverse sur pas grand-chose. Je suis connue pour ça, alors j'assume. Donc oui, non, David Imbeaux, c'est une magnifique découverte. J'ai rencontré ce compositeur grâce à Lorenzo Gabriele, qui est un de mes fidèles, n'est-ce pas ? C'est un réalisateur avec qui j'ai fait beaucoup de films.
Alors, oui, c'est Lorenzo ou Emmanuel, de toute façon. Hein.
Oui, voilà, maintenant c'est Lorenzo et Emmanuel. Et donc à chaque fois, effectivement, j'impulse à David, évidemment en parlant avec le réalisateur ou la réalisatrice, un genre de musique. Et après, à lui de nous faire des propositions. Évidemment, c'est très en amont. On parle de la musique, du ton, du genre, très en amont. Et à chaque fois, je lui fais faire, enfin, il nous propose une composition, mais chantée, avec quelque chose qui est très romanesque en général. Et vraiment, je suis, moi, toujours époustouflée par ce qu'il propose. Et là, effectivement, il nous a fait des propositions et des compositions que je trouve magnifiques et qui, moi, m'émeuvent, quoi, énormément. Voilà, je pense que la musique, c'est à part entière, c'est une partie entière du succès d'un film, quoi. Voilà.
Ah bah, c'est clair, il y a des films qui n'auraient pas du tout la même lecture sans la musique, ça c'est une certitude. Autre fidèle, même si Lorenzo n'a pas réalisé, il a participé au scénario avec Philippe Ledem, oui, qui lui aussi est un fidèle avec qui tu travailles, notre ami Philippe qu'on aime beaucoup aussi et qui vient à chacune des avant-premières qu'on peut organiser. Et donc Philippe a écrit cette très très belle histoire aussi.
Pour revenir à la fidélité, en fait, il faut aussi savoir que quand on travaille avec des personnes avec dont on apprécie les qualités, on a une telle complicité qu'à un moment donné, on gagne tellement de temps et du coup, on va tellement plus loin parce que du coup, on s'embarrasse plus. Il n'y a pas d'histoire d'ego, il n'y a pas, c'est voilà, j'aime, ah non, ça je trouve pas ça bien, tu devrais faire mieux. Attends, on va trouver autre chose. Il faut y aller, quoi. Il faut pas avoir peur. Et quand on rencontre pour la première fois ou un auteur ou un compositeur ou un réalisateur, on est obligé de prendre des gants, on se comprend pas. Ça, c'est beaucoup trop compliqué pour moi maintenant.
Alors, et moi, on a eu de la chance, c'est qu'on est des nouveaux quand même dans l'aventure et dans l'équipe.
Elle a pris des gants.
Bah, pas vraiment, parce qu'en fait, il n'y a pas eu besoin. J'en ai mis, moi. Patrick l'a très bien signifié. Mais j'en ai mis, mais sincèrement, pour rebondir sur ce que dit Sylvette, c'est que ce tournage, et vous le savez, Elisa et Patrick, Emmanuel forcément, était un vrai bonheur chaque jour. On se levait le matin avec Laurie, on en parlait très souvent tous les deux. On était très heureux de venir sur le plateau, on était très heureux de retrouver nos camarades de jeu avec qui on riait autant qu'on pleurait. Mais on a beaucoup ri. Emmanuel sait justement avec beaucoup de fermeté et beaucoup de délicatesse, une main de fer dans un gant de velours, ça lui va très bien. Et c'est-à-dire qu'on a, on arrive à travailler dans le bonheur, à faire notre journée, mais toujours avec beaucoup d'humour au moment où on peut le faire et de rester dans
sérieux quand il faut aussi.
Voilà, et être sérieux quand il faut, ça c'est on sait le faire, on sait le faire. Voilà, on sait rigoler quand on a les 5 minutes qu'il faut. On a un petit peu de lumière à faire, on sait que c'est la bonne blague, c'est pour le moment, c'est maintenant, ce sera pas après ni avant. Mais on sait le faire, voilà.
Il y a franchement, c'est vrai que ton personnage est un petit peu plus introverti que de ce que tu joues habituellement. Laurie à côté de toi a des tirades absolument impressionnantes. Elle t'a impressionné parce que tu la connaissais pas, Laurie. Avant, moi, elle m'a épaté parce que dans ce film, elle a un côté hyper solaire. Elle dégage une émotion assez dingue vis-à-vis de son histoire, parce que la particularité des Mystères 2 aussi, c'est qu'on découvre vos histoires personnelles à travers le scénario. Je l'ai trouvée mais vraiment épatante, quoi.
Tout à fait, moi aussi. Je trouve qu'elle a construit son personnage de manière elle est très droite, je trouve. Ce personnage est très droit. Il est implacable par moments. Et j'aime beaucoup ça, c'est que c'est une fine lame. Et j'ai beaucoup aimé la manière dont tu as proposé son personnage. Je trouve ça très juste et différent aussi de des choses dans lesquelles j'ai pu la voir. Et le duo, du coup, avec Lucien fonctionne bien. Parce que lui, il est un peu plus bancal, il est un peu plus chaloupé, je dis par moments. Un coup, tout va bien, un coup, tout va mal. Et elle reste très droite, tout en portant ce bébé de très belles manières. Et je trouve ça vraiment très joli, je trouve que c'est un très joli téléfilm.
En tout cas, on a passé un très très bon moment en le voyant et vous allez certainement passer un très très bon moment samedi en le regardant sur France 3. Emmanuel, est-ce qu'il y a eu un moment particulier à nous raconter sur une scène, alors à part celle où on était là, nous? C'est à la maison de chasse, voilà, c'est la seule indication qu'on va dire, on est à la fin. Donc moi je sais qui est le ou la coupable, mais je dirai rien, même sous la torture.
Surtout pas, il faut pas dévoiler ça, il faut que tout le monde regarde jusqu'au bout. Non, il y a eu effectivement, je dois avouer, le coup de genou avec Jérémy. Ça restera quand même un immense souvenir parce que, bon, on savait, on l'a lu et même déjà à la lecture entre comédiens à plat, comme ça sur une table, déjà ça faisait rire tout le monde, donc on était assez confiants sur la façon dont ça allait être ressenti et il n'y a pas d'erreur. Là, la salle a vraiment beaucoup, beaucoup réagi à ce moment-là et c'était assez jubilatoire.
Bon, alors écoutez bien, toute l'équipe, je prends que 10% sur ce que je vais dire là. D'accord. C'est pas cher, ça va, Elisa?
Non, c'est pas cher, hein.
Sur chacun, attention. Sylvette a commencé tout doucement à amorcer des suites. Donc, elle a fait les mystères du Bois Galant et c'est devenu les mystères de l'école de gendarmerie. Donc, évidemment, ma question, est-ce que tu as envie de retrouver ce duo avec Laurie et Jérémy Binster pour peut-être faire une suite? Est-ce qu'en tout cas ça t'a donné envie, ce que t'as vu pour ce premier opus?
En fait, c'est la question piège, parce que bien évidemment j'ai envie de retrouver des duos qui ont bien fonctionné, qui ont résisté à tout ce qu'on leur a fait faire, hein, parce que c'est quand même toujours très compliqué de rentrer dans des personnages. Alors le problème, c'est que ce n'est pas moi qui décide, c'est la chaîne, et la chaîne, sur le principe des mystères, ne souhaite pas reprendre les duos. Et ils veulent toujours des nouveaux duos. Bon.
Oui, mais ton pouvoir de persuasion a fait que tu as pu au moins le faire une fois déjà.
J'ai fait une fois, c'est vrai. Mais j'ai drôlement, drôlement chaloupé pour y arriver. Je raconterai pas la cuisine, mais effectivement, ça a été compliqué. Et ça a pris plus de 2 ans quand même pour pouvoir arriver à mes fins. Voilà.
En tout cas, toi, à titre personnel, s'il n'y avait pas la chaîne, tu as envie de retrouver ce duo. Ça, c'est une certitude.
Je le dis pas parce que Jérémy est là. Oui, j'ai vraiment envie de les retrouver. Parce que je sais déjà ce que je peux leur faire faire. Et je sais déjà même ce que je peux leur proposer comme sujet suivant.
Oui. Bon, eh bien, on va suivre déjà en tout cas Les Mystères de la Duchesse. C'est samedi sur France 3, ne le ratez pas. C'est un très très beau téléfilm, en tout cas de cette collection qu'on aime et qu'on soutient à chaque fois, bien évidemment. Merci infiniment à tous les 5 d'avoir été avec nous pour en parler. Les Mystères de la Duchesse, c'est samedi et c'est à 21h10 sur France 3. Merci à tous les 5.
Merci Alain.
Merci Alain.
À bientôt.
Merci, à bientôt.
Merci beaucoup.
Les nuisibles, faut s'en débarrasser.
L'arrivée de ce type ne présageait rien de bon.
Laurie Pester, Jérémy Binster.
Vous pensez pouvoir aller jusqu'au bout de l'enquête?
Je vois pas ce qui m'en empêcherait.
Le duo d'enquêteurs parfait pour des petits meurtres dans la grande bourgeoisie.
Bientôt sur France 3,
nous résoudrons ensemble
les mystères de la Duchesse.
Dans un instant, page spéciale Festival de la Fiction Télé avec Sandrine Bonner et Stéphane Strano, le président du festival. Alors à tout de suite.
Bouge pas. Chut, on écoute la télé, reviens dans un instant. À tout de suite. Chut, on écoute la télé, c'est aussi en live sur onécoutelatélé.com et sur la page Facebook. Chut, on écoute la télé.
Lorsque l'amour est tombé par terre, on croit mourir mais on survit. Dis-toi que tu vas faire une affaire, vu que mon cœur a déjà servi. Si tu savais, je suis moins naïf qu'hier, et pourtant je t'aime aujourd'hui. Comme si t'étais la première. C'est beau, c'est con, ouais, c'est la vie. Encore une fois, encore plus fort. On se dit plus jamais, mais on peut aimer, aimer encore une fois. Encore plus fort, c'est plus fort que toi et moi. C'est maintenant et c'est là. Encore une fois, encore plus fort. Marqué par nos histoires anciennes, on prend celle-ci comme un cadeau. Dehors on sait qu'on n'est plus les mêmes, dedans on reste des ados. Il fait si beau le long de la Seine, des couples poussent des landaus. Rien ne presse, je caresse ton dos. On verra bien où le vent nous mène. Encore une fois, encore plus fort. On se dit plus jamais, mais on peut aimer, aimer encore une fois. Encore plus fort, c'est plus fort que toi et moi. C'est maintenant et c'est là. Encore une fois, encore plus fort. On se dit plus jamais, mais on peut aimer, aimer encore une fois. Encore plus fort, fort que toi et moi, c'est maintenant et c'est là. Encore une fois, encore une fois, encore plus fort. C'est plus fort que toi et moi, c'est maintenant et c'est là. Encore une fois.
Tous les bonus audio et vidéo de votre émission sur onécoutelatélé.com, sur notre chaîne YouTube et notre page Facebook. Chut, on écoute la télé. Chut, on écoute la télé, le talk show radio.
Nouvelle édition du Festival de la fiction télé de La Rochelle qui s'ouvre demain du côté de La Rochelle. Et on a la présidente du jury avec nous, Sandrine Bonner. Bonjour Sandrine.
Bonjour.
Alors, impression à 24 heures justement de cette édition. Je sais que vous êtes une amoureuse de cinéma et de télévision et que vous allez certainement mordre à pleines dents ces 5 jours de fiction qui s'ouvrent à vous.
Absolument. Donc, nous avons beaucoup de films à voir. Nous en avons déjà vu un paquet de tout format. Donc, je me réjouis de partager toutes ces belles émotions avec mon jury.
Avec votre jury et puis les spectateurs aussi qui vont être nombreux évidemment dans les salles. On rappelle, c'est gratuit en plus pour les projections. Donc vraiment, voilà, allez-y. Dans les fictions, on a tous les genres qui sont représentés à La Rochelle, que ça soit les fictions courtes, que ça soit les séries, que ça soit les téléfilms. On attend vraiment beaucoup de belles histoires, beaucoup de rendez-vous pour le public. C'est un festival énormément tourné vers le public, le Festival de la fiction télé. C'est aussi ce qui vous a plu quand Stéphane vous a proposé la présidence?
Oui, c'est très populaire puisqu'on sait bien que la télévision, contrairement au cinéma, la télé vient chez vous, alors que le cinéma, vous sortez de chez vous pour aller voir un film de cinéma. Donc la télévision est très populaire pour ces raisons-là. La télévision, je trouve, progresse, parce que je ne cacherai pas mon côté un petit peu sceptique de la télé parfois. Je trouvais que la télévision, à un moment donné, était pas toujours très bonne. Et je trouve que on a de meilleurs films aujourd'hui. Je pense que c'est grâce aux plateformes, peut-être aussi lié au Covid. Il y a des choses qui se sont créées pendant le Covid. Les gens, je pense que justement la télé a un petit peu pris la place du cinéma en lien avec, voilà, avec ce confinement. On ne pouvait pas sortir, donc c'est bien normal qu'il fallait regarder des choses à la télévision.
Et il y a une exigence de plus en plus forte sur la fiction télévisée.
Absolument. Il y a une exigence beaucoup plus forte. Il y a des séries qui sont absolument formidables. J'en ai d'ailleurs tourné une pour TF1 qui s'appelle Les Combattantes. Magnifique.
Ça va être l'événement de TF1 d'ailleurs qui sera présenté pendant ce festival.
Ah, tout à fait, oui. C'est une très très belle série. Voilà, ben, je pense que ça va être très agréable.
Un bel amusement. Quel genre de présidente vous allez être avec votre jury? Exigeante, plutôt débattante, vous allez avoir envie de quoi?
Ouais, déjà, nous allons avoir des discussions parce qu'il y a plus d'une quarantaine de films. Donc il y a des films qu'on est obligé de voir en amont puisque 5 jours...
C'est impossible, oui.
5 jours, on ne peut pas voir une quarantaine de films. Donc en fait, ce qu'on va faire, enfin ce que je vais demander c'est à mon jury, c'est d'avoir des moments de discussion, peut-être en ayant vu une dizaine de films, de commencer à...
Des points réguliers.
Voilà, des points réguliers parce que déjà pour la mémoire, hein, il faut se souvenir de tout. Et puis, alors comment je vais être, vous savez, c'est comme la démocratie, hein, c'est pour avoir présidé plusieurs fois, je me suis aperçue que quand c'est à l'unanimité ou presque, vous ne pouvez rien faire. Enfin, le pouvoir du président, c'est vraiment quand c'est très serré.
Ouais.
Voilà, donc là, j'interviendrai sur mes propres choix, mais en tant que présidente, c'est d'écouter son jury et de que chacun s'exprime. Et puis le président n'a pas toujours raison, donc. Si je m'aperçois que quasi à l'unanimité, les gens ont envie de donner tel prix à tel film, ce sera à moi de me remettre en question. Je me dirais peut-être que j'ai raté quelque chose, c'est la majorité qui l'emporte et c'est comme ça.
En tout cas, on va se retrouver à partir de demain au pied des tours de La Rochelle pour 5 jours consacrés à la fiction. Ça va être un vrai bonheur de vous avoir parce qu'avoir une présidente qui va toujours aussi bien du côté télévision, cinéma, qui parcourt tous les styles aussi de comédie. Parce que voilà, il y a des comédies dramatiques. Moi, je me souviens de beaucoup de films avec vous et il y a vraiment plein de genres différents que vous avez explorés dans votre métier de comédienne. Donc voilà, je trouve que Stéphane a fait un très beau choix en tout cas.
Ben, je vous remercie beaucoup. Et c'est vrai que de passer du cinéma à la télévision, de la télévision au cinéma, c'est formidable. Et puis, vous avez parfois des films de cinéma qui seraient plus pour la télévision et des films de télévision plus pour le cinéma. Donc, ça ne veut rien dire aujourd'hui.
La frontière est mince.
Voilà, tout à fait.
Merci Sandrine.
Merci à vous.
Et puis, on se donne rendez-vous demain à La Rochelle.
Absolument.
Pour vivre 5 jours de folie qu'on va vous faire vivre évidemment sur tous nos réseaux sociaux, sur notre page Facebook, évidemment notre site internet. Et puis voilà, on vous souhaite un très bon festival et à demain à La Rochelle.
À demain. Au revoir.
Chut, on écoute la télé, spécial festival.
Et on va terminer évidemment cette émission comme il se doit avec cette nouvelle édition du festival de la fiction télé. Après Sandrine Bonner, eh bien c'est le président du festival qui est avec nous pour terminer. Stéphane Strano, bonjour Stéphane.
Bonjour Alain, merci de m'accueillir sur ton antenne.
Écoute, on est toujours très heureux de t'avoir. Le festival rayonne maintenant partout en Nouvelle-Aquitaine. On a cette chance-là avec l'objectif Tourner Fiction aussi, de faire tourner des fictions tout au long de l'année, comme il y a eu à Bordeaux par exemple l'année dernière. Et le festival s'ancre une fois de plus à La Rochelle pour une nouvelle édition qui va retrouver son public en masse après 2 années compliquées. Une année à Paris, puis l'année dernière une année où on pouvait pas du tout proposer d'événements publics. C'est un vrai retour aux sources pour le festival cette année, hein, Stéphane.
C'est un bonheur immense de retrouver La Rochelle sans contrainte, de retrouver le festival plus fort, plus libre, de retrouver l'ensemble des festivaliers qui viennent en nombre dès ce soir et de rencontrer enfin le grand public après ces années où on a beaucoup regardé la télévision, mais on a peu vu les étoiles qu'on aime en vrai et elles seront toutes sur le grand port de La Rochelle pour des échanges, des rencontres et énormément de films.
Et oui, et le jury arrive dès demain, présidé par Sandrine Bonner, comme on le disait à l'instant, et elle va être bien accompagnée, hein, on peut le dire, Sandrine Arnaud-Mercadier, Louise Monod, David Bayot, qui vient de faire son grand retour dans Plus belle la vie d'ailleurs, et qu'on adore dans les crevettes pailletées.
Ils vont être vraiment
bien entourés.
Gaëlle Chollet, productrice, Brice Davoli, compositeur, et effectivement Sandrine Bonner, qui nous fait le grand honneur de présider cette édition 2022 et de dessiner à travers cette sélection incroyable, je le dis, je le répète, cette sélection incroyable, un palmarès, mais ça, c'est pour la fin de la semaine.
Exactement.
Pendant ce temps,
on va déguster déjà l'édition.
On va déguster l'édition. Exactement.
Exactement. Nat, d'aller vous retrouver demain, puisque cette édition du Festival de la Fiction, on va vous la faire vivre, évidemment, tout au long de la semaine, sur nos réseaux sociaux, notamment notre page Facebook, avec plein de lives, avec plein de surprises, évidemment, des artistes qui vont être là en nombre. Le Festival de la Fiction, c'est entre 200 et 300 comédiens qui se succèdent sur le port, mais c'est aussi de grands professionnels, des producteurs, des présidents de chaînes de télé, des scénaristes. Et il y a tellement de projets qui se nouent à La Rochelle et qui se font à La Rochelle. Ça, peut-être que le grand public ne le sait pas toujours, mais beaucoup des fictions, je pense à Mongeville avec Francis Perrin, par exemple, qui s'est décidé à La Rochelle, mais il y a eu tellement de projets qui se sont noués ici, dans notre belle cité.
Tu as raison de le dire, parce qu'effectivement, quand on va à La Rochelle, on a un grand moment de fête, un grand moment de variété, de diversité, de culture, de création. Mais le festival, c'est aussi un lieu d'inspiration et d'échange pour l'ensemble de la communauté audiovisuelle française et étrangère. Française et étrangère, on a 4 continents représentés à travers la sélection francophone étrangère. On a beaucoup d'événements, beaucoup de temps de réflexion. Alors, on réfléchit sur notre avenir. On noue des relations amicales à la manière de La Rochelle. Je ne dirais pas le festival, mais à la manière de La Rochelle, c'est-à-dire dans la plus grande simplicité, avec la plus grande beauté. Et effectivement, le festival qui était, dont l'ADN est la création française, est aussi un festival d'inspiration pour les professionnels.
Alors, le paysage audiovisuel change, Stéphane, on le sait tous, et c'est une belle manière cette année que le festival a de s'ouvrir encore un peu plus, outre toutes les sections, évidemment, de séries en 26 minutes, en 52 minutes, les fictions unitaires, les fictions aussi, bien sûr, francophones, étrangères, européennes, tout y passe. Et bien, cette année, le festival s'ouvre aussi aux plateformes, avec notamment des avant-premières pour Amazon Prime ou encore pour Netflix. Ça aussi, c'était une volonté, évidemment, ça fait partie à part entière maintenant, aujourd'hui, de la fiction, puisque ces deux plateformes, notamment et Disney Plus aussi, aujourd'hui investissent de plus en plus dans la création française.
Ce sont des acteurs incontournables de la création française. Donc le festival a travaillé à les convaincre, à leur montrer que ce temps de la rentrée, le grand moment de la rentrée, la grande fête de la création, était le lieu idéal pour qu'ils puissent nous montrer leurs avant-premières mondiales, hein, avec Netflix et Prime Video qui nous rejoignent, et certainement d'autres dans les années à venir. Et ça, on va laisser faire cette belle édition, et je crois que on rassemblera tout le monde, parce que c'est un lieu incontournable, c'est un temps incontournable, et c'est le lieu où toute la profession se retrouve.
Et puis alors, c'est chouette, parce que depuis maintenant l'année dernière, on a un jour de plus, hein, le festival démarre le mardi soir, et du coup on peut profiter de 4 vraies journées, du mercredi jusqu'au samedi, de projections d'avant-première, avec un bouquet le dimanche évidemment, avec une rétrospective des films primés. Donc là on profite vraiment de ces journées à plein temps, quoi.
Alors peut-être on peut ajouter qu'on en profite pleinement, avec toute la variété de la sélection française, de la sélection européenne et de la sélection francophone, et on en profite gratuitement pour le grand public.
Et oui.
C'est ça le plaisir du festival.
C'est unique.
C'est cette rencontre entre les étoiles et le grand public dans la plus grande des simplicités, à travers des œuvres qui vont vous bouleverser, vous faire rire et pleurer.
Demain soir, le festival fera sa grande soirée donc d'ouverture avec Lou Denis et Lyon. Ça, c'est la jolie surprise. On espère peut-être que Mathieu Madénian viendra nous faire un petit coucou en clôture, non? Pas forcément.
Ah ben c'est Mathieu Madénian
qui fait la clôture,
qui va, je le dis, présider la cérémonie de clôture de manière totalement traditionnelle, pour le plus grand plaisir de l'ensemble du public, évidemment.
Ah puis attends, les élus seraient capables de te virer si t'as pas Madénian en clôture maintenant. Hein.
Et je ne serai pas viré cette année, c'est le problème, parce que Mathieu est là et je veillerai chaque année.
À ce qu'il soit là.
C'est un temps incroyable avec Mathieu, qui est un grand ami du festival. Et puis, comme tu le disais, c'est Lou Denis et Lyon qui nous fait la joie de nous proposer une cérémonie d'ouverture. Lou Denis, c'est un ami du festival. C'est un ami de Juste Humain, tu sais, cette association que nous soutenons depuis le début.
Et que nous aussi, d'ailleurs, on soutient avec Nathalie Nikoloff, qu'on embrasse, d'ailleurs.
Exactement, et qu'on embrasse très, très fort. Et moi, je suis très fier que Lou Denis se prête à un jeu qui est tout à fait délicat pour un artiste, de se confronter à l'ensemble de la profession, toute présente devant lui.
Alors, on va parler des événements. Demain soir, pour l'ouverture, il y aura la fiction Canal+. Ça sera Canal+, qui sera l'honneur. Demain, donc Canal+, mais
avec
mercredi...
Marie-Antoinette. Exactement.
Une série à ne pas manquer, mercredi soir, La Maison d'en face, avec Julie Debona, Thierry Neuvik, un casting incroyable, Marc Ruchman. Ça sera pour M6. Il y a les combattantes, évidemment, qui sont diffusées lundi
Michina
prochain.
Michina la pauvre.
Oui, pour Amazon.
Alain, Michina la pauvre, présentée par Prime Video pour la première fois le mercredi 14.
Aussi.
À 19h30. Comme tu disais, La Maison d'en face, casting incroyable,
ouais.
Les Papillons Noirs, Arte, le jeudi 15,
ouais.
Et puis Les Combattantes, TF1, le jeudi 15, Diane de Poitiers, France Télévisions.
Pour France 3, réalisé par José Dayan, d'ailleurs.
Exactement, avec Isabelle Adjani, et Notre-Dame, La Part du Feu, Netflix, le samedi 17, viendra clôturer les fictions événements de cette édition 2022.
Alors il faut dire quand même que Stéphane, je crois que vous vous êtes fait dépasser complètement cette année, parce que franchement ça a été un succès mais phénoménal, puisque samedi la part belle est faite évidemment aux séries quotidiennes, et alors là je crois que c'est un record, parce que je crois qu'en 1 minute 30 toutes les places qu'il y avait de réservation pour les séances de dédicaces pour Ici tout commence, Demain nous appartient, Plus belle la vie, et on va revenir d'ailleurs plus longuement sur Plus belle la vie après, mais et Ainsi grand soleil ont été réservés, mais en 2 minutes sur le site. Ça a été incroyable ce qui s'est passé là.
Nous sommes victimes du succès du festival, de ce goût du grand public pour ces quotidiennes, pour ce temps de rencontre, pour ce moment qui, je le rappelle, sur ton antenne, est un temps essentiel pour les artistes, puisque ils ont la chance absolue de rencontrer le grand public. L'inverse est vrai, mais je rappelle que les stars sont là aussi pour sentir l'amour qu'on porte, ouais, à nos fictions, à nos créations françaises. C'est un moment d'émotion. Alors, effectivement, tu l'as juste évoqué un instant, il y a un moment d'émotion encore peut-être plus important, en tout cas, dans mon cœur, il est très important. C'est effectivement l'événement Plus belle la vie.
Ouais. Et, avec une grande convention, on vous donne le rendez-vous.
Exactement.
Parce que c'est 14h30 à la Coursive samedi. Il y aura une séance de dédicace, évidemment, qui va suivre à 16h30. Et là, c'est 20 comédiens, dont pas mal d'historiques, qui seront présents pour ce grand final, parce que voilà, on le sait tous, Plus belle la vie s'arrêtera le 18 novembre prochain sur France 3. C'est la fin de 18 ans d'histoire de cette série, et qui va se clore, on va dire, en beauté à La Rochelle, au Festival de la Fiction Télé, parce que je crois que pas une seule édition du Festival de la Fiction Télé s'est déroulée sans Plus belle la vie depuis le début.
Il était incontournable que nous soyons là à leur côté jusqu'au dernier moment. On veut un moment festif, ce sera un grand moment d'émotion, j'en suis sûr.
Oui, j'en suis sûr, pour le public, et puis évidemment pour tous les comédiens qui seront présents. Vous pourrez retrouver d'ailleurs toute la liste des comédiens présents de toutes ces séries quotidiennes sur notre site onécoutelatélé.com. On vous a mis puis toutes les informations de cette édition. Vous pouvez les retrouver aussi sur le site du festival-fiction-télé.com. Un rendez-vous à ne pas manquer, et sur évidemment Festival de la Fiction sur Facebook. Merci beaucoup Stéphane d'avoir été avec nous. On se retrouve demain du coup.
Oui, on se retrouve demain pour la cérémonie d'ouverture et pour cette semaine de fêtes et de créations françaises.
Alors, je vais pas te souhaiter une bonne nuit, parce que je pense qu'elle va être très courte, mais en tout cas, on a hâte de te retrouver demain à La Rochelle. Merci beaucoup Stéphane, à très vite.
Merci à toi.
Lundi prochain dans Chute, on écoute la télé.
Lundi prochain dans Chute, on écoute la télé, on parlera du film Une belle course avec Christian Carion, qui sera notre invité exceptionnel. Spécial également du film Maria rêve, le film sortira le 28 septembre au cinéma. À cette occasion, les deux réalisateurs, Lauriane Escaffre et Yvonique Muller, sont nos invités, accompagnés de Karine Viard pour la première fois dans Chute, on écoute la télé, et Grégory Gadebois. Un rendez-vous à ne pas manquer. On évoquera évidemment bien sûr aussi La Maison d'en face, la série événement d'M6, et Les Combattantes, la série événement de TF1 avec une partie de leurs équipes.
Le rendez-vous des stars, c'est Chute, on écoute la télé, votre talk show radio.
Et je vous invite à rester connecté avec nous. N'oubliez pas que vous avez également le podcast de la quotidienne tous les jours à midi sur notre site onécoutelatélé.com, et que chaque lundi à 20h, on vous donne rendez-vous évidemment pour le podcast de l'hebdo de Chute, on écoute la télé. Vous pouvez rester également connecté avec nous tout au long de la semaine sur notre page Facebook Chute, on écoute la télé, et télécharger également nos applications pour iPhone et Android. Chute, on On écoute la télé. Je vous remercie d'avoir suivi cette émission. Je vous dis à très bientôt pour un nouveau podcast de Chut, on écoute la télé, l'hebdo. À lundi prochain, 20h.
Chut, on écoute la télé avec Langélis, votre maître artisan glacier. En Nouvelle-Aquitaine, des glaces sans ajout d'arôme, sans colorant, sans conservateur. Découvrez les premiers cônes glaciers artisanaux français dans vos rayons en grande surface. Pour votre santé, évitez de manger trop gras, trop salé, trop sucré. Et retrouvez vos boutiques Langélis à Nantes, Paris, Bordeaux, Royan, La Rochelle et La Cotinière. Succombez au plaisir d'un dessert Marie Morin avec Chut, on écoute la télé. Marie Morin, une entreprise familiale, un goût inimitable. Retrouvez vos recettes sans colorant, sans conservateur et vos points de vente sur mariemorin.fr.